France Inter.
Je me suis toujours entretenu avec moi-même, avec quelques histoires, avec des fantaisies, des divagations. La lecture des poètes du XXe siècle, qui est la littérature que je préfère.
Une photographie, pour moi, ce n'est pas encadrer quelque chose de la réalité extérieure et l'amener dans la caméra, mais c'est plutôt réveiller quelque chose à l'intérieur de moi et le mettre à la lumière. Donc c'est plutôt donner une photographie que la prendre.
C'est un vrai personnage de roman, avec un visage de montagnard, cette montagne qu'il aime tant gravir. Ce Napolitain de naissance à la moustache fine et blanche s'est engagé dans des luttes d'extrême gauche. Il a été travailleur agricole, ouvrier, maçon, responsable du service d'ordre du mouvement Lotta Continua. Depuis l'âge de 50 ans, l'écriture est sa principale activité, avec des engagements toujours ponctuels aux côtés des altermondialistes. Il vit près de Rome, il écrit des romans. Monte Didio a reçu le prix Femina en 2002. Il rédige des poèmes, des articles, et l'on peut lire en ce moment chez Gallimard « Récits de saveurs familières », un voyage gustatif dans sa vie, dans sa mémoire, ainsi qu'un recueil de poèmes « Récolte à la lumière du jour ». Bonjour Éric De Luca.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous savez que peut-être un jour, un cinéaste va faire un film de votre vie ?
Oui, je sais qu'il y a des projets sur ça.
Ah bon ? Et alors, vous dites oui ?
J'ai déjà dit oui.
Avec quel acteur ?
Non. Avec la directrice, s'appelle Audrey Gordon, qui fait des docu-fiction.
Eh oui.
C'est français, française.
Et elle va raconter votre vie.
Elle va raconter à partir d'un livre qui s'appelle « Les poissons ne ferment pas les yeux », que c'est une histoire d'adolescents sur l'île d'Ischia en été, et qui commence à connaître le mot « justice ».
On a hâte de voir ce film
en cours.
D'Audrey Gordon, qui est une très bonne cinéaste. Vous avez bien fait de dire oui, Éric De Luca. Vous avez invité un compatriote, un photographe italien qui vit et travaille à Paris depuis plus de 50 ans. Je vous salue, Paolo Roversi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe de mode, certes, mais surtout un très grand portraitiste. Nous prendrons aussi des nouvelles du Festival d'Aix-en-Provence qui se prépare. Il commence le 4 juillet et sans son directeur, bien sûr, disparu récemment, Pierre Audi. Bienvenue à vous, c'est la dernière du Grand Atelier saison 2 sur Inter.
France Inter, le Grand Atelier, Vincent Josse.
Éric De Luca, Paolo Roversi, j'ai envie d'entendre votre langue. Comment est-ce qu'on dit le Grand Atelier en italien ?
La grande officina, il grande
laboratorio.
C'est mieux en italien.
C'est plus long en italien.
C'est plus long. Votre atelier à vous, Éric De Luca, c'est votre bureau près de Rome ?
Mon atelier à moi sont mes genoux.
Vos genoux ?
J'écris sur les genoux.
C'est vrai ?
C'est avec un cahier, le stylo, et jamais à une table. J'ai eu cette pratique depuis des endroits où il n'y avait même pas une table, et alors je me trouve bien avec les genoux.
Un cahier et un crayon.
Un cahier et un crayon. Et un peu accroupi, c'est une position un peu confortable, mais qui me permet de faire interrompre vite l'écriture, parce que l'écriture doit durer peu.
Et puis surtout, ça vous permet de rencontrer plein de gens et de vous mettre à écrire presque tout de suite.
Ah, partout.
Hein? Vous qui aimez rencontrer et raconter ensuite.
Ah, je n'ai pas de préférence. Il y a des rencontres qui passent comme ça, sans rien laisser, et des rencontres que tout à coup, on s'aperçoit que ça ont été des rencontres, parce qu'au moment qu'on fait les rencontres, on ne sait pas si c'est une vraie rencontre ou une occasion de partager le moment. Et avec Pablo, c'est passé comme ça.
C'est-à-dire ?
C'est rencontré pour... à travers une connaissance commune qui nous a invités à un dîner. Et c'était une rencontre comme ça. Et après, c'est devenu une vraie rencontre.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre ami ? Est-il d'ailleurs votre ami, Paolo Roversi ?
Je prétends qu'on est amis, mais il faut demander à lui la confirmation.
Et comment présenteriez-vous Paolo Roversi.
Donc l'Italie se partage en deux, pas nord-sud, mais est-ouest. Ça veut dire les Tyrrhéniens et les gens de l'Adriatique. Moi, je suis de la mer Tyrrhénienne et lui est de l'Adriatique.
Et il y a des grosses différences ?
Des énormes différences. Mais c'est ça, oui. Mais on nomme les mêmes poissons d'une façon différente. On cuisine les mêmes poissons d'une façon différente. Donc, une grande différence culturelle. Mais nous sommes quand même dans la Méditerranée. Nous sommes quand même des gens de mer, qui est né sur la mer et avec le sel, le même sel sur,
voilà,
sur la peau.
On a le même sel sur la peau, on ramasse le même coquillage, et voilà. Pour moi, c'était une rencontre très importante. Et jour après jour, je sentais, j'avais le sentiment de les connaître depuis... C'est un peu banal de dire ça, mais depuis ma jeunesse, j'avais l'impression d'avoir passé mon enfance avec lui, justement sur une plage au bord de la mer, pieds nus, et ce sentiment, je l'ai toujours très fort. Et je dis toujours que j'ai lui envie d'avoir passé son enfance et son adolescence à Naples, qui est une ville que j'adore. Et il peut vous raconter justement de son enfance à Naples, où il a grandi en plus dans une pièce entouré par les livres de son père, et ça, je pense que c'était aussi, c'est une chose que j'ai envie aussi d'avoir grandi au milieu des livres.
Et oui, il dormait sur les livres dans la bibliothèque de son père.
Oui.
C'était l'endroit le plus silencieux de la maison, parce que Naples est une ville évidemment très bruyante.
Oui, et vous ça, aviez, c'est merveilleux. Oui.
Vous aviez la paix et vous aviez des mots comme oreiller.
Oui, mais avant de ça, j'ai appris à jouer aux cartes. Les Napolitains ont appris à jouer aux cartes avant d'apprendre à lire et à écrire.
Et c'est resté.
Et donc ça s'est resté, j'ai toujours
maintenu... Et il maintenu... joue très très bien. Et il me bat toujours à la scopa, il me bat toujours, parce que lui, c'est compter les cartes, c'est compter les points, alors que moi, je ne sais pas, en jouant compter, j'oublie. Mais lui, il les compte, et après, à la fin, il me gagne toujours. Et ça m'énerve beaucoup, ça.
Moi qui allais dire... Que se disent un grand écrivain comme De Luca et un grand photographe comme Roversi quand ils se rencontrent ? Ben, tout simplement, ils jouent aux cartes.
Ils jouent à la scope, voilà.
On va écouter quelqu'un que vous aimez bien, qui a disparu il y a une petite dizaine d'années, c'est Gian Maria Testa. Ça a été un ami, un compagnon, vous avez même fait des choses ensemble, travaillé ensemble, Eric De Luca.
Oui. Je suis né sans frère à côté, et donc dans ma vie, je m'est arrivé de chercher des frères.
Oui.
Alors, le frère mineur a été Gian-Maria Testa, et le frère majeur a été un poète de Sarajevo qui s'appelle Izet Sarajlić, que j'ai connu pendant la guerre de Bosnie. J'ai besoin d'être frère de quelqu'un, donc il m'est resté ce sentiment de fraternité.
Gian-Maria Testa, vous aviez des engagements communs ?
Oui, parce qu'on a fait beaucoup de spectacles ensemble sur le théâtre. On faisait un spectacle qui s'appelait Quichotte et les Invincibles. Quichotte est notre personnage préféré et les Invincibles sont ceux qui, comme lui, se battent sans jamais être battus une fois pour toutes. Et donc on faisait des exemples comme ça, on chantait, on faisait des histoires, on racontait des histoires. Et on a fait ça pour des années et années, un peu partout, même en France.
Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare, la 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 la. Thank you. si muovono e ci incantano le ore di certe nostre sere, e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.
Comme les ondes de la mer. Je suis content qu'on écoute Gian Maria Testa qui chante la mer, les ondes de la mer, parce que vous êtes à peine arrivé. Vous avez dit quelques mots en italien, Eri De Luca, et vous avez parlé à la fois de la mer et du sel. Oui. Qu'est-ce qu'elle est présente dans votre vie, dans vos racines et sur votre peau, la mer?
Moi, je suis né à Naples. Mais dans des ruelles de Naples, où il n'y avait pas de vue de la mer. La mer, c'était quand, l'été, quand je pouvais aller sur l'île. Alors la mer, c'était la liberté. Et la liberté commençait le moment où je débarquais sur l'île à enlever les chaussures et les pieds nus. La liberté commençait avec la première épaisseur de la peau sous les pieds. Et la liberté était pouvoir regarder tout autour de la circonférence de l'île et regarder toutes les directions possibles. Donc c'était une idée de la mer comme liberté. Par contre, tous les pouvoirs de l'époque ont imaginé les îles comme des prisons et ont planté des prisons dans les îles avec l'intention de l'imagination que la mer était comme une deuxième clôture. Donc j'ai tout de suite compris que moi et les pouvoirs n'avaient même pas la même vision de l'horizon.
Voilà comment on devient un militant.
Non, on devient militant par un sentiment de justice. Mais la géographie, en ce cas, à propos de la liberté aussi, m'a expliqué des différences fondamentales.
Paolo Roversi, comment la mer vous a-t-elle gagné?
Oui, la liberté des pieds nus, je l'ai vécue aussi parce que nous, on habitait à Ravenne, qui est une ville qui est à une dizaine de kilomètres de la mer. Mais à partir de la fin de l'école, on s'est transféré dans une maison au bord de la mer. Et là, j'enlevais mes chaussures et jusqu'au mois de septembre, plus chaussures, plus de t-shirts, juste le soleil sur la peau et l'eau salée sur la peau. Comme j'habitais cette maison au bord de la mer, pour moi, la mer, c'était aussi les bruits, les sons. Parce que la nuit, je sentais, s'il y avait un peu de bourrasque, je sentais les bruits et les bateaux qui sonnaient pour entrer dans les ports. Et tous ces sons étaient magiques pour moi. Et quand on s'est levé le matin, comme de la fenêtre, on voyait la mer, ma sœur me disait « Ah, aujourd'hui, la mer est calme, la mer est calme. » Autrement, il y a des vagues, mais on sait l'état de la mer. Et ça, c'était très émouvant, toujours.
Est-ce que vous voudriez que vos cendres soient dispersées dans la mer?
Oula. Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais...
parce que vous êtes bien dans la vie, Paolo Roversi, voilà, c'est ça, pour ça. Eri De Luca, vous y pensez?
J'ai l'ambition de ne faire pas retrouver mon corps, oui.
Ah oui, mais... disparaître.
Disparaître.
À tous les sens du terme.
C'est cette ambition que peut-être la montagne me peut aider à réaliser.
Vous continuez de grimper, si je puis dire.
Oui.
De gravir des montagnes.
Et on commence à être officiellement vieux quand quelqu'un vous demande « Mais tu fais encore ça ? Mais tu fais encore cela ? Tu grimpes encore ?» Alors, à fur et à mesure de sentir cet encore, on est officiellement vieux.
Et est-ce que c'est un sentiment de tristesse ?
Non. Non, 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 je manque de ce sentiment de tristesse. Il m'arrive parfois pour des souvenirs des personnes que j'ai perdues, mais ce n'est pas un sentiment qui me dure.
La mer, vous écrivez sur elle? Vous écrivez surtout des poèmes sur la mer?
Oui, j'écris des poèmes sur la mer et sur la mer moderne, la mer de la Méditerranée, qui est devenue une espèce de fosse commune des corps des migrants.
Un cimetière?
Un cimetière est une chose où il y a le nom sur les tombeaux, sur les cercueils, non? Et là, il n'y a pas de nom. C'est une fosse commune. Et oui, alors, la mère de mon enfance a été effacée par cette mère moderne. où les corps des milliers et milliers de migrants entrent dans la chaîne alimentaire.
Il y a un poème qui s'intitule « Naufrage », quand on ouvre « Récolte à la lumière du jour » chez Gallimard. Vous me permettez de le lire ?
Merci.
Dans les canaux d'Otrante et de Sicile, des migrateurs sans ailes, paysans d'Afrique et d'Orient, sombrent dans le creux des vagues. Un voyage sur 10 reste pris dans le fond, le paquet de graines se répand dans le sillon, ouvert par l'ancre et non par le soc. La terre ferme d'Italie est une terre fermée. Nous les laissons se noyer pour nier.
Oui.
C'est fort ça, les laissons se noyer pour nier.
Si, mais c'est tout simplement c'est une constatation. Une constatation qui se reproduit régulièrement avec des formes d'infamie mineure, misérable. Pour retarder les secours, pour inciter à l'omission de secours. Il y a des lois qui incitent à l'omission de secours.
Prendre la plume, écrire un poème, est-ce qu'on fait ça avec l'espoir que ça change quelque chose ?
Non, non, pas pour moi. Non, mais avec l'intention de mettre dans la manière plus lucide et propre possible mon sentiment.
Vous êtes actif avec une fondation qui porte votre nom, Iri De Luca,
oui. Une
fondation qui a à peu près 10 ans et qui permet à de jeunes étrangers qui sont sans papier, qui n'ont pas de possibilité de s'inscrire dans la vie professionnelle, justement de trouver leur place. C'est là que vous êtes actif, c'est là que les choses peuvent changer ou s'améliorer.
Oui, la fondation, une petite fondation qui se finance avec l'argent de nous-mêmes, ce n'est pas des banques ou des entreprises qui nous financent. Et donc, nous offrons des bourses d'études pour des étudiants universitaires qui sont venus à travers la Méditerranée comme en recherche d'asile, de refuge. Mmh. Donc, nous avons déjà, dans ces années, pu accompagner jusqu'au diplôme des personnes, des jeunes gens. On peut donner 11-12 bourses d'études, donc c'est vraiment quelque chose de minimal.
Des petites graines.
Oui, mais ce ne sont pas des gouttes dans le désert. Ou si ce sont des gouttes dans le désert est l'endroit où aucune goutte est gaspillée.
Paolo Roversi, est-ce que vous êtes vous aussi militant de quelque chose ? Est-ce que vous avez même peut-être envie parfois d'accompagner votre ami Iri De Luca quand il s'occupe des migrants, quand il va dans un pays en guerre ? C'est quelqu'un qui continue des démarches et des missions humanitaires.
Oui, je lui ai proposé, mais je crois qu'il ne veut pas de moi. Il ne me semble pas peut-être trop... sincère, je ne sais pas dans ça.
Oh non. Et que c'est, avec un autre collègue, un autre compagnon, on a un petit camion et on ne peut pas entrer en trois dans le camion. Pour aller en Ukraine, on fait plus de 5000 km en 5 jours. Donc, il n'y a pas d'espace.
Il n'a pas envie de m'inviter.
Non. Il sent que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous êtes mieux dans votre studio.
Oui, peut-être.
Peut-être
il a raison.
À regarder des femmes et des hommes et à essayer de... Moi, je dirais, quand je vois vos photos, à essayer de chercher leur âme. Vous vous approchez d'eux souvent. Le visage, pour vous, c'est une terre étrangère que vous avez envie de connaître. Vous fouillez dans les visages des modèles.
Oui, comme vous dites, je cherche... Peut-être pas chercher leur âme, mais avoir un peu au-delà de la surface et découvrir quelque chose d'un peu d'invisible, cette petite autre dimension.
Vous êtes venu à la photo par admiration des grands photographes ?
Non, mais j'ai appris beaucoup par les grands photographes, en regardant leur travail et tout. Je suis autodidacte et donc j'ai appris en regardant les livres, les photos des grands photographes. J'ai eu plein de maîtres comme ça, merveilleux, à partir de Nadar et de Niépce. Et après, tous les autres...
Et est-ce que Man Ray a été important dans votre vie ?
Oui, pas aussi important que d'autres. Auguste Sand peut-être a été plus important.
Parce que je voulais vous faire écouter une interview de Man Ray, comme je sais qu'il fait partie quand même des gens qui comptent, même s'il n'est pas le plus important. On l'écoute parler de la photographie ?
Oui.
Pour moi, une photo, c'est comme une page écrite, comme un tableau, comme un cri, comme une chanson. C'est une forme d'expression. Et ce n'est pas un appareil. On me demande toujours, quand j'étais photographe, quel appareil je me servais. Mais je dis, vous ne demandez pas à un peintre quel pinceau et quelle couleur il se sert. On m'a déjà critiqué, on m'a dit, mais j'essaie de faire des photos qui ressemblent à la peinture. Et alors, je dis, c'est très naturel, je suis peintre. Et je vois tout avec les yeux d'un peintre depuis mon enfance, depuis quand j'ai toujours fait la peinture. L'appareil photographique m'a intrigué un jour, je l'ai pris aussi, je l'avais besoin pour enregistrer mes créations plastiques. Et c'est devenu tout à fait naturel de me servir d'un appareil.
Une réaction de Paolo Roversi à ce que dit Maître Manet.
Oui, c'est vraiment Maître Manet, mais j'aime beaucoup tout ce qu'il dit. Et je suis d'accord avec lui que ce n'est pas l'appareil, l'outil qui décide les langages et la chose. Et Manet, bizarrement, j'étais à son enterrement. Les jours de Saint-Germain, j'étais au cimetière de Montparnasse, par hasard, parce que Henri Cartier-Bresson qui m'avait amené par hasard, et étonnamment, on était 5 ou 6 personnes, pas plus. Et à l'époque, il n'était pas encore connu, il n'avait pas eu les grands expos à Beaubourg, et c'est après qu'il est devenu fameux et tout. Mais j'aime beaucoup démarrer sa capacité d'accepter tous les accidents, de réagir, de laisser beaucoup de place à l'hasard et aux accidents.
Ben c'est exactement ce que vous faites quand vous êtes en studio. Vous attendez l'accident par
oui,
le revers.
Oui, mais non, mais je suis un peu marréal.
Vous aimez forcément les photos de votre ami Paolo, Eri De Luca.
Eh oui, eh si, si.
Hein? Qui photographie des femmes ou des hommes?
Oui, mais parce qu'il est visionnaire, il peut faire des reproductions du réel. Il est visionnaire. Alors, sa manière d'imaginer, de donner une autre possibilité au réel, ça me regarde.
Vous cherchez à la fois la vérité du personnage qui est en face de vous, de la personne. Je ne sais pas si vous dites personnage ou personne.
Personne.
La personne qui est en face
qui
de vous.
Qui devient un personnage.
Qui devient un personnage parce qu'il y a des tons sépia. Il y a parfois une volonté de nous faire croire que la photo est floue. L'envie de faire entrer cette image dans du merveilleux.
Oui, non, je ne veux pas faire croire que la photo est floue. La photo est floue.
Ah oui. Mais volontairement.
Volontairement,
pour
oui.
Créer quelque chose.
Ou par hasard aussi.
Ou par hasard. Les accidents.
Les accidents, oui.
Pour sortir du réel.
Oui, j'aime bien sortir, m'éloigner du réel le plus possible, oui. Quand je ferme la porte du studio, je dis tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel, je le laisse dehors de la porte. Ici, c'est le monde de l'imaginaire, des rêves, des visions, comme il dit Henry, et pas de la logique rationnelle et cartésienne, pas du tout.
Quand vous parlez de votre studio, Paolo Roversi, vous dites « c'est le centre de mon monde ».
Oui. C'est le centre de mon monde, et quand je photographie quelqu'un dans mon studio, c'est cette personne qui devient le centre du monde. J'aime bien la faire sentir lui-même le centre, ou elle-même, le centre du monde.
Donc vous ne pouvez pas partir dans un camion en Ukraine.
C'est pour ça qu'elle ne met pas de main, il reste dans ton studio.
Eri De Luca, il vous intéresse le centre de son monde, à Paolo Roversi?
Oui, moi j'étais sous son objectif.
C'est vrai?
Oui, il m'a pris des photos dans son studio. Je fais partie de sa collection des rencontres.
Et comment est la photo de vous?
C'est meilleur de moi, non? Évidemment.
Non.
C'est une amélioration de la...
C'est difficile de photographier ses amis?
Non, Harry, c'était facile parce que la photographie, c'est toujours une question d'amour, de toute façon. Et donc, Harry, je l'ai photographié avec toute ma sympathie, mon amour pour lui, toute mon affection. Et c'était facile, la photo est très belle.
Ah, c'est difficile.
En plus, il a une très belle tête.
Oui, c'est vrai.
Et donc, très facile, la photographie.
Il avait mis sur une musique napolitaine pendant la séance.
Oui.
Et comme ça, vous souriez, vous dansiez un peu.
De Roberto Murolo, qui c'est notre héros dans la musique.
Vous pourriez chanter le refrain?
Oui. Era di maggio. Ma... Harry le chante mieux que moi.
Harry De Luca? Le refrain, je voudrais...
La compagne d'Harry, elle me dit, Paolo est sympathique, mais surtout, il ne faut pas qu'il chante en napolitain.
Donc vous vous êtes amusé pendant cette séance.
Il faut lui interdire de chanter en napolitain. Mais le premier soir, on s'est rencontrés, Harry et moi, on a chanté en napolitain ensemble.
Ah oui.
Après quelques verres de vin.
Donc là, vous en êtes incapable, mais c'est parce que vous êtes...
Parce que je suis à sec, maintenant.
Mais on, oui, il y a
oui,
qu'un...
Oui, là,
je n'ai plus
pas.
Que du café, oui, donc...
Là, on ne peut pas, surtout, je vais faire tout et pas sa compagne.
Eh bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va écouter quelqu'un qui sait bien chanter.
Voilà.
Qui bien. S'appelle Zao de Sagazan, et qui chante sur France Inter. Est-ce que tu vas bien ?
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là, suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore, est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore, est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore, est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Éry De Luca, on connaît votre biographie, on sait que vous avez été militant, que vous avez été ouvrier, et puis qu'à partir de environ 50 ans, l'écriture est venue comme quelque chose qui tombe du ciel. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi à 50 ans, vous savez que vous devez écrire, que vous ne pouvez pas faire autre chose.
Non, mais je me suis toujours tenu compagnie avec l'écriture. L'écriture, je ne suis plus lecteur que
oui, vous lisez énormément, oui.
Évidemment. Mais l'écriture m'a toujours tenu une belle compagnie. M'a sauvé des beaux moments de mes journées ouvrières. Alors, c'est passé une publication inouïe pour moi, parce que je pensais que c'était des affaires qui ne regardaient que moi. Et comme ça, c'est commencé, et alors j'ai continué avec les publications. Mais à l'époque, j'étais encore ouvrier, et j'ai fait l'ouvrier après ma première publication, encore pour 7 ans. Et à la fin, il y a eu un livre qui m'a permis de suspendre 20 ans d'activité ouvrière. Et alors, je suis devenu officiellement, pour le régime fiscal, écrivain.
Oui, et puis pour votre vie tout court.
Ma vie n'est pas changée, donc je continue à faire l'écriture comme une activité petite et secondaire de ma journée.
Sur vos genoux?
Sur les genoux, et le matin très tôt, mais restez le cycle ouvrier de la journée.
Qu'est-ce que vous faites alors dans la journée en n'étant plus ouvrier si vous écrivez uniquement le matin?
Ah, maintenant que je suis vieux, je m'entraîne physiquement davantage. Je me suis aperçu qu'à mon âge, je dois arriver à la fin de la journée complètement épuisé physiquement.
Ah bon?
Et que toutes les énergies doivent être employées pour et pas gardées pour le jour successif. Et après, j'ai fait beaucoup de lectures, je lis davantage maintenant.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
En ce moment, je suis en train de lire des romans de Walter Scott.
Est-ce que vous le lisez en anglais ?
Non.
Non ?
Non, je le lis dans un vieux format italien.
Parce que dès vos débuts, j'allais dire, dans votre prime jeunesse, Éry De Luca, vous avez appris des langues pour lire dans la langue.
Oui, par admiration envers quelques auteurs, quelques écrivains et écrivaines. Par exemple, par admiration vers Marina Tsvetaeva.
Oui.
J'ai commencé à étudier le russe mais pour le lire, pas pour le parler.
Alors si par exemple je vous fais écouter Anna Akhmatova qui dit un poème en russe, vous sauriez le traduire ?
Non.
Non ?
Non, non, je peux le lire, mais, la prononciation...
On va juste écouter Anna Akhmatova qui, dans les années 50, disait ce poème. Tout en ce lieu me survivra, les vieux abris d'oiseaux chanteurs et ce souffle, printemps d'ailleurs, qui a franchi la mer déjà.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Anna Akhmatova m'a donné une définition de la poésie du XXe siècle. Elle se trouvait dans la queue devant une prison, la prison de Leningrad. Maintenant, elle a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait Leningrad, c'était l'année 50. Elle était là, en queue, avec des autres proches, des prisonniers qui étaient là-dedans. Ils restaient là pour des heures, sans savoir s'ils étaient admis ou non à la rencontre. Parfois, ils les renvoyaient sans explication. Donc, elle était là dans cet hiver russe, gelée, coincée dans cette queue. Et une femme elle était reconnue, parce que les poètes étaient reconnus en Russie. Alors, une femme, une vieille femme qui était avant elle, se tourne vers elle et dit « Mais ça, vous pouvez le décrire ?» Et Anna répond avec deux syllabes en russe, « Mogu, je peux ». Avec ces deux syllabes, la poésie du XXe siècle s'est pris la responsabilité d'être à l'auteur du « ça » du XXe siècle. Donc, m'a donné la meilleure définition de la poésie, de la tâche de la poésie.
Vous avez commencé par le roman ou par la poésie ?
Comme lecteur.
Comme écrivain.
Comme écrivain avec des histoires.
Vous êtes un conteur, vous.
Si, mais
vous avez besoin de poésie, d'en écrire aussi.
Parce qu'il y a des arguments, des moments qui me suffisent une page. J'arrive à écrire plus qu'une page. Mais je ne fais pas différence entre la ligne de la prose et la ligne de la poésie qui s'interrompt. Pour moi, la poésie, ce sont des lignes un peu plus courtes du nécessaire, un gaspillage de lignes.
Et d'ailleurs, dans le prologue de Récolte à la lumière du jour, vous dites que vous n'êtes pas un très très grand auteur de poèmes.
Parce que je, face à ma page en prose, je sais que mieux que ça, je ne peux pas l'écrire. Donc, je suis en règle avec moi-même. Mais face à une page de poème, je sais qu'elle pourrait être peut-être meilleure, mais que je n'arrive pas à la... Alors, je me sens, comme poète, je me sens approximatif. Une approximation à la justesse.
Vous faites rire votre ami Paolo Roversi. Pourquoi ?
Oui, je trouve que tu exagères, là, parce que tes poèmes sont merveilleux et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'approximatif. Parce que tu écris vraiment tellement précis et tellement... Chaque mot est exactement à la place où il doit être. Et vraiment, chaque ligne est tellement... Là, c'est un peu comme Mozart. Tu ne peux pas changer une seule note. Ces notes... Tout la musique s'écroule. Et t'es vraiment précis. Je ne vois pas comment tu peux utiliser les mots approximatifs pour ton écriture ou ta poésie.
Et c'est un sentiment qui regarde la poésie, qui ne regarde pas la prose. Parce que la prose, c'est ça, pour moi. Et donc, si, je me sens un peu abusif dans la collection des poètes.
J'ai entre les mains un autre livre, récit au pluriel, de saveurs familières au pluriel aussi, avec d'ailleurs un dessin d'une aquarelle de tomates. Il est question effectivement de tomates, de l'eau, du sel, du pain, parce que vous vous racontez à partir de souvenirs gustatifs, et il y a notamment la cuisson et la préparation des pâtes.
Spaghetti, rigatoni, penne, penette, linguine, fettuccine, il y en a de toutes les formes, pour tous les goûts. Un seul point commun, obligatoire en Italie, la farine de blé dur, qui est leur sang, leur chair, leur âme. Faire tressaillir ainsi dans une poêle gorgée de sauce de la nouille au blé tendre, c'est une chose que personne n'oserait exiger d'une vraie cuisinière italienne.
C'est une question de sexe, là. Le moment que tu manges le spaghetti, tu sens cette émotion de la dureté, c'est du sexe, de la sexualité, c'est pas seulement la gastronomie.
Voilà, ça c'est un reportage de 1988 de Marcel Tria dans le 20h d'Antenne 2, et c'était le critique gastronomique italien Leonardo Pescarolo qui comparait la nourriture, enfin les spaghettis, au sexe. Vous n'êtes pas allé jusque-là, vous, dans votre livre, Éric Guédon.
Non.
Vous, c'est plus un livre de mémoire.
Oui, c'est ça. Mais la mémoire est quelque chose que je ne peux pas utiliser. Parce que j'oublie tout. Alors, la mémoire, pour moi, sont des coups de mémoire de ce que j'ai oublié.
Les pâtes, par exemple, vous les faites cuire sans sel?
Non, sans sel. Mais parce que...
Expliquez la raison.
Oui, mais parce qu'il faut mettre... Ça suffit pour moi mettre de l'huile, non? Et pour avoir le goût de sel. La pâte et l'huile, c'est un repas complet.
Vous ouvrez de grands yeux, Paolo Roversi. Vous mettez du sel, vous, dans les pâtes?
Moi, je suis plus classique, je mets du sel, oui, mais je suis un barbare, comparé à Harry des pâtes. Hein.
C'est comme mettre le sucre dans le café, c'est la même chose.
Voilà, Harry, c'est un pur. Vous voyez, dans ses livres, oui. C'est un pur de l'art de la cuisine. Moi, je suis végétarien en Romagne. Romagne, c'est une cuisine grasse, c'est une cuisine... Et on met le sel dans les pâtes, on met le sel partout... Et on mange le cotechino, le prosciutto, toutes les choses qui ne sont pas dans le livre d'Henri.
Mais il est passionnant parce qu'on vous connaît vraiment mieux après avoir lu Éric De Luca, récit de saveur familière. Je pense notamment au moment où vous évoquez les tavernes. C'est un lieu que vous avez beaucoup fréquenté quand vous étiez jeune homme, que vous n'aviez pas le sou, comme on disait à l'époque, vous n'aviez pas du tout d'argent. Et quand vous en gagniez un petit peu, vous alliez là-bas parce que c'était un lieu de fraternité, la taverne.
Oui, c'est un lieu de générosité aussi. Le patron nous accueillait. On pouvait faire aussi des réunions politiques dans les tavernes. Il suffisait, par prétexte, une carafe de vin. Et on faisait de la politique. Et la taverne était un endroit de... une espèce de maison du peuple. À l'époque, c'était comme ça. Et au moment où le dernier client partait... Le patron fermait. Il n'y avait pas une horaire.
Aïe.
Donc c'était un service public aussi.
C'était les années 70?
70, si.
Est-ce que vous avez la nostalgie de ces années-là, Éric De Luca?
Non, j'ai pas de, je ne suis pas privé complètement du sentiment de la nostalgie, mais j'ai la conscience d'avoir bien profité de cette époque.
Une époque pourtant difficile. Encore une fois, vous avez connu la faim. Vous savez ce que c'est que d'avoir faim?
Oui. J'ai connu un manque de nourriture, qui ne s'était pas encore l'extrémisme de la faim, parce que la faim, c'est la plus horrible des conditions humaines. Donc, si, j'ai connu un peu d'insuffisance alimentaire qui m'a été soignée par la politique. Ça veut dire qu'un jour que j'étais là, dans une manifestation où il y avait aussi des ouvriers de la cantine universitaire, à la fin de cette manifestation, les ouvriers de la cantine universitaire ont ouvert la cantine universitaire à tout ce qui était là. Parce qu'il avait participé à la manifestation.
Et c'était gratuit.
Oui, et sans badge, on pouvait entrer sans badge. Et le moment où on fait ça, ils ont décidé de le faire à outrance. Tous les jours, on pouvait aller là et manger à la cantine universitaire sans besoin d'être inscrit à l'université. Donc c'était une époque généreuse.
Une époque généreuse. On va continuer de parler ensemble avec vous, Éric De Luca, et avec votre invité, le photographe Paolo Roversi. On fera un petit tour à Aix-en-Provence pour prendre des nouvelles du festival qui va bientôt commencer, le Festival international d'art lyrique, juste après Pierce Faccini qui chante en duo avec Balaké Sissoko.
To myself, finding somewhere that I can be for something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real. Thank you. sand. With the rain, how they washed away.
Atelier sur France Inter.
Je vous le disais à l'instant, on va se rendre à Aix-en-Provence où le Festival international d'art lyrique se tient du 4 au 21 juillet.
Minuetto, chi la follia, chi la ne manda, fare balar, chi minuetto, fare balar, chi la follia, fare balar, chi la ne manda, fare balar.
Bonjour Timothée Picard.
Bonjour.
Et pardon à Don Juan, vous êtes dramaturge et conseiller artistique du Festival d'art lyrique. Don Giovanni, dont on écoutait un air célèbre de l'acte 1, c'est une œuvre programmée cette année.
Absolument, c'est un des titres phares de la programmation 2025 du festival et par ailleurs c'est un titre absolument central dans toute l'histoire du Festival d'Aix-en-Provence. C'est le titre qui a été le plus programmé. Le Festival d'Aix-en-Provence est né au sortir de la guerre sous le signe de Mozart. Il y a un Mozart programmé chaque année et cette année donc c'est Don Giovanni qui n'avait pas été donné depuis 2017. C'est la 8e production de Don Giovanni au Festival d'Aix-en-Provence.
Avec un chef célèbre.
Sir Simon Rattle, qui revient au festival, c'est un compagnon de route éminent du festival, mais qui n'avait, curieusement, jamais dirigé Mozart au festival. Et par ailleurs, n'avait pas dirigé Don Giovanni depuis très longtemps. C'est une œuvre qu'il admire infiniment, mais en même temps, c'est une œuvre qui l'intimidait. Et il se sentait prêt, cette fois, avec son nouvel orchestre, la Bayerische Rundfunk, à affronter ce monument de l'histoire de l'opéra.
C'est beau d'entendre, il y a une œuvre qui m'intimide et je mets un peu de temps à me lancer.
Oui, pour quelqu'un de, évidemment, d'aussi émérite, bien aussi sûr, expérimenté que Simon Rattle, c'est souvent une manière d'être des plus grands et c'est très Simon Rattle précisément qui est merveilleusement doué, mais aussi la gentillesse, l'humanité, l'humilité même.
Rattle qui rencontre et qui travaille avec un metteur en scène britannique.
Absolument. Robert Icke, qui fait ses débuts à l'opéra, ses débuts en France aussi, qui est un jeune metteur en scène britannique extrêmement réputé outre-Manche, avec lequel tous les plus grands acteurs veulent travailler, les plus grands chefs veulent aussi collaborer. C'est quelqu'un qui n'a pas son pareil pour s'emparer d'une matière de notre culture canonique, très ancienne, les tragiques grecques, Shakespeare ou autres, et la raconter d'une manière qui lui permet de retrouver toute sa force et sa pertinence pour le public d'aujourd'hui.
L'édition du Festival d'Aix va permettre également de commémorer Pierre Boulez, qui est né en 1925, et Bizet, mort en 1875. Est-ce que le spectateur, le visiteur, peut attendre un événement ou plusieurs événements autour de ces artistes disparus ?
Alors, autour de Bizet, dont c'est en effet l'anniversaire de la mort et l'anniversaire aussi de Carmen, nous allons donner pour la première fois au festival son autre grand opéra, Les Pêcheurs de Perles, en version de concert, au Grand Théâtre de Provence. Et en ce qui concerne Pierre Boulez, nous allons d'abord avoir des rencontres qui vont lui permettre de lui rendre hommage dans le cadre de débats avec de très grands compositeurs d'aujourd'hui, deux générations, une génération confirmée qui va parler du legs de Boulez et notamment de la place de nouvelles technologies dans la musique à l'ère de l'IA, et puis ensuite la nouvelle génération de compositeurs, puisque la première année de l'Académie en 1998, Pierre Boulez a dirigé une résidence de composition et retrouve cette année une résidence de composition. Et puis par ailleurs, des pages de ses quatuor accords seront donné par le quatuor d'Iotima lors d'un concert de la programmation de juillet.
Est-ce que c'est vrai que le ténor allemand Jonas Kaufmann vient et se produit à Aix ?
Alors, tant qu'il ne sera pas là, c'est difficile de le dire. Vous savez, il est très demandé, très couru, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de pression sur les épaules et qui parfois est amené à annuler. On devait l'avoir déjà en 23 pour un Othello qu'il a été obligé d'annuler. Et là, on a bon espoir qu'il soit là pour un récital de Lieder avec Diana Damrau, Mahler, Hugo Wolf, Strauss seront notamment programmés.
Bon, ben on croise les doigts pour vous tous et pour les spectateurs. Il faut bien préciser qu'il y a de l'opéra, bien sûr, de grandes productions lyriques à Aix-en-Provence l'été, mais il y a aussi de la musique classique, il y a aussi du jazz et ce qu'on appelle des musiques du bassin méditerranéen.
Absolument. La caractéristique du Festival d'Aix-en-Provence depuis l'origine, et c'est quelque chose qui s'est renforcé dans les dernières décennies, c'est l'opéra en version scénique, mais replacé au milieu d'une part de un spectre très large de pratiques musicales, donc de musique classique certes, musique de chambre, symphonique, récital ou autre, mais aussi plus largement donc du jazz. On a eu de très grands concerts historiques dans l'histoire du festival et aussi des musiques de toutes les traditions méditerranéennes. Et puis par ailleurs, c'est un festival aussi qui pense l'opéra, certainement pas refermé sur lui-même, dans une bulle autonome, mais toujours en dialogue avec les autres pratiques artistiques, qu'il s'agisse de la danse, qu'il s'agisse du cinéma, du théâtre ou autre. Voilà, c'est l'opéra au milieu de toutes les pratiques artistiques qui font le spectacle vivant aujourd'hui.
Timothée Picard, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent festival d'Aix-en-Provence qui se tient du 4 au 21 juillet. Éric De Luca, est-ce que vous m'autorisez à dire votre âge ?
Ah oui.
75 ?
75.
75.
Précis.
Et vous allez marcher dans un mois où ?
Je vais grimper dans les Dolomites maintenant, le mois de juillet.
Vous partez à plusieurs, j'imagine ?
Non, je pars seul.
Ah, seul, toujours ?
Si, je suis seul.
Avec votre téléphone ?
Non, je n'amène pas le téléphone quand je vais escalader, non.
Et si vous faites une chute, tant pis ?
Ah, si je fais une chute, je passerai le reste de ma vie à tomber.
Est-ce que vous emportez votre crayon et un peu de papier ?
Oui, je dans la chambre que je loue, j'écris toujours quelque chose.
Est-ce que vous avez avec vous un appareil photo ?
Non.
Non ?
Non, je prends des photos avec le portable. Mais des photos, des choses que je rencontre comme ça, alors j'ai envie de les prendre. Par exemple, je me suis trouvé à Bruxelles et je me suis trouvé en arrière d'une statue de Quichotte et Sancho Panza.
Ah oui, que vous aimez tant.
Oui. Ouais. Et je me suis trouvé arrière et je l'ai pris en arrière, cette photo de ce dé-là.
Et est-ce que vous montrez vos photos au photographe présent dans le studio, Paolo
oui.
Roversi?
Oui, me les montre et me les envoie et sur ce sujet, on a un projet d'un livre ensemble.
Ah bon?
Oui. Ou tu vas en parler, toi, Harry. Tu vas décrire notre projet.
Le projet était d'abord le fait que Paolo m'a fait des photos pour une écriture que je devais faire pour une revue. Et donc, c'était une espèce d'autobiographie à travers des objets. Et alors, on a décidé de faire le contraire. Que je lui envoie des photos de moi, des photos que je prends, et lui écrit.
Ah oui ?
Alors, on appelle ça, on a déjà le titre, Paradoxe.
Ah, j'aime bien. Et vous avez peur d'écrire Paolo Roversi ou vous avez l'habitude d'écrire ?
Non, je n'ai pas l'habitude comme Harry, mais j'aime bien écrire. Oui, j'aime bien écrire. Et j'ai toujours écrit un peu, mais pas du tout comparable au travail d'Harry. Et j'aime bien écrire. Mais qu'est-ce que je voulais raconter ? Je voulais raconter une fois où R est venu chez moi, il y a une été ou deux ou trois étés, parce que maintenant le temps vole, et il m'a amené un panier, comme un panier de pique-nique, un oseille plein de livres à lui, assaisonné avec des coquillages ramassés au bord de la mer. Et c'était un cadeau magnifique, parce que moi j'aime beaucoup les livres, et je vis entouré de livres. J'ai beaucoup de livres d'Harry, bien sûr, presque tous les livres d'Harry maintenant. Mais j'aime beaucoup être entouré de livres. Et même, je ne suis pas obsédé par le fait qu'il faut lire chaque livre qu'on a. J'ai aussi des livres que j'ai jamais lus et j'achète aussi des livres que j'ai pas lus parce que je pense que les livres ils m'entourent et ils me réchauffent, ils me réconfortent. Si j'ai un petit problème comme ça, un peu de morale bas, je prends un livre et tout de suite je vis une nouvelle aventure, je rentre dans une nouvelle vie et je pense pas que c'est, j'ai pas le complexe de pas avoir lu tous les livres que j'ai. Je pense que on peut faire la comparaison avec que c'est pas nécessaire de connaître le nom de chaque arbre pour respirer l'air de la forêt.
Et bientôt un livre Paradoxe, Paolo Roversi.
Et bientôt un livre Paradoxe.
Henri De Luca. Oui. Ça, c'est une bonne info. Récolte à la lumière du jour, c'est le nouveau recueil de poèmes d'Henri De Luca chez Gallimard et ces récits de saveurs familières qui nous permettent de savoir la relation d'Henri De Luca à différents mets. Il y a d'ailleurs des recettes familiales à la fin et puis il y a des petits mots aussi à chaque fois. Par exemple, quand vous parlez du pain, d'un nutritionniste qui est un de vos amis, qui s'appelle Valerio Galasso et qui complète ce que vous venez de dire d'une manière très intéressante. J'ai appris pas mal de choses. Par exemple, faut pas culpabiliser quand on mange un ragoût. Ça, c'est bien de savoir ça.
Oui, mais ça, c'est mon premier livre qui est utile. Parce qu'à travers lui, on explique la nourriture et donc est utile pour le lecteur.
On va se quitter avec un de vos poèmes de Récolte à la lumière du jour, Henri De Luca. Je vais le lire en français, celui que j'ai choisi. Et si vous le voulez bien, vous le lirez en italien ensuite.
Ah, d'accord ? Attention.
Il chausse ses lunettes, mesdames, messieurs.
Voilà.
Le poème s'intitule « Exemple » au pluriel, « Exemple d'amour ». J'aime ce qui unit l'aiguille, le fil recouse les lèvres d'une chemise, d'une blessure. J'aime le sentier de montagne gravé par les pas qui relie les villages, des chalets, des refuges, des alpages. J'aime le petit écran éclairé où je peux voir ton bâillement lointain et la carte du monde derrière toi. J'aime la conjonction « et » parce qu'elle joint. Le stylo sur le cahier qui réunit la main qui t'écrit et tes yeux qui effleurent les lignes.
Amo quello che unisce, l'ago, il filo. Ricucciono le labbra di una camicia, di una ferita. Amo il sentiero di montagna inciso dai passi che collega villaggi, baite, rifugi, malghe. Amo il piccolo schermo illuminato dove posso vedere il tuo sbadiglio lontano e la mappa del mondo alle tue spalle. Amo la congiunzione e, perché congiunge, la penna sul quaderno che riunisce, la mano che ti scrive agli occhi tuoi che sfiorano le righe.
Lucie Le Marchand a réalisé cette émission. Louise Tempero, Virginie Rosic, Betty Algray m'ont aidé à la préparer. Valentine Chédebois a programmé la musique qu'il y avait aujourd'hui à la technique Maxime Goudard. Je remercie toute l'équipe pour son investissement toujours joyeux depuis septembre dernier. On vous retrouve à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Rendez-vous également le samedi dans la balade pour une troisième saison. Très bon été à vous!